à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Fabien Nangaro, bonjour.
Bonjour, Monsieur Cyr, je vous remercie pour cette invitation et je salue l'ensemble de vos auditeurs.
Fabien Nangaro, vous avez fait des études de droit et vous avez eu une expérience de directrice des ressources humaines dans quelques grands groupes nationaux et internationaux. Et puis, changement radical, il y a six ans exactement, en 2016, vous êtes nommée directrice générale d'une, ce qu'on appelle une ONG, une organisation non gouvernementale, qui a la forme d'une association. Et cette association a pris une certaine ampleur ces dernières années. Aujourd'hui, elle compte 400 salariés et environ 50 bénévoles qui travaillent quasiment à temps plein tous dans votre association. Et bien qu'ayant son siège à Toulouse, cette association, qui porte le nom de Union Cépierre Robert Mounier, l'UCRM, cette association est finalement peu connue du grand public et donc j'aimerais que vous nous la présentiez.
Oui, effectivement, l'Union Cépierre Robert Mounier est plus connue sous l'acronyme UCRM. C'est, comme vous l'avez dit très justement, une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général et dont le siège social est situé à Toulouse, dans le quartier des Pradettes. Elle a été créée en 1948 à Toulouse avec pour objet d'œuvrer sur le territoire de la région Occitanie auprès des publics vulnérables et en situation de désinsertion sociale. Nous proposons ainsi un accompagnement social vers et dans l'hébergement, le logement, la formation, l'insertion professionnelle et la coordination des parcours de soins et de santé. Nous agissons donc pour venir en aide et réinsérer socialement et professionnellement les personnes en situation précaire.
Et alors, dans l'implantation, au départ, c'est Toulouse, et aujourd'hui, vous en êtes où ?
Alors, aujourd'hui, l'association est représentée et exerce son activité dans 8 départements de la région Occitanie, et plus particulièrement en Haute-Garonne, qui est le cœur historique, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Ariège, le Lot, l'Hérault, l'Aveyron et le Gers. Notre idée, en fait, c'est d'amener l'ensemble des services que nous proposons au plus près des personnes et en particulier auprès des personnes qui sont les plus éloignées des métropoles.
Et quelles sont les missions actuelles ? Est-ce que les missions de départ sont restées les mêmes ? L'insertion sociale et économique, c'est ça ?
Oui, effectivement, notre volonté est de permettre aux personnes de se réinsérer socialement et professionnellement. Et donc, nous les accompagnons très largement sur l'ensemble de ces missions, sous l'impulsion de notre président, M. Christian Liméros. Nous avons accueilli dans ce cadre-là, en 2022, plus de 10 140 personnes avec le concours de 400 salariés, de 50 bénévoles. Nous avons déployé sur l'ensemble de la région près de 1500 logements à destination de ces personnes, dont 380 sont issus du parc privé, c'est-à-dire sont loués auprès de propriétaires privés qui s'inscrivent ainsi dans une démarche solidaire. Et nous travaillons également avec les bailleurs sociaux.
Vous dites que vous avez, l'année dernière, reçu, enfin, aidé 10 000 personnes, mais donc vous hébergez pas 10 000 personnes en permanence.
Alors, nous organisons évidemment un roulement, hein, puisque les personnes ne résident pas chez nous très longtemps, l'objectif étant de les réinsérer le plus rapidement possible. On considère néanmoins les spécificités de chaque personne. On construit avec la personne ce qu'on appelle un projet personnalisé et on évalue la temporalité requise pour l'accompagnement. Les 15 établissements médico-sociaux que nous gérons aujourd'hui, l'ensemble des dispositifs conventionnés nous permettent de proposer un cadre le plus adapté possible aux besoins de la personne. Et dans la mesure du possible, on fait en sorte de ne pas faire durer cet accompagnement, mais bien de mettre la personne en possession des moyens nécessaires pour pouvoir organiser sa réinsertion. Et c'est elle qui va être actrice au quotidien dans cette démarche-là que nous allons faciliter.
Donc, si je comprends bien, votre première activité, c'est quand même l'hébergement et la formation, en quelque sorte, pour permettre l'insertion.
Exactement. Les publics qui nous sont orientés, hein, puisque nous sommes délégataires de services publics, nous intervenons pour le compte des services de l'État, de la région, du conseil départemental, de Toulouse Métropole et des diverses villes dans lesquelles nous intervenons. Les personnes nous sont orientées et sont souvent en situation de grande précarité. Nous accueillons beaucoup de publics qui sont en errance à la rue ou des personnes qui ont rencontré un incident de parcours de vie qui les a mis en distance avec l'hébergement classique. Donc notre première mission est de stabiliser cette situation du logement pour permettre de construire ensuite le parcours vers la formation, l'insertion professionnelle.
Et quelle est la proportion à peu près dans votre public, comment les origines, quelles sont-elles et est-ce qu'on peut avoir une idée de la cartographie un peu ?
Nous accueillons beaucoup de personnalités différentes. En fait, on va travailler à la fois avec des personnes isolées, mais aussi avec des familles ou des couples avec des enfants. Nous accueillons environ un quart de nos publics sont des mineurs qui ont connu des problématiques de rupture familiale. Le reste des publics sont des majeurs qui vont être soit des personnes en exil, soit des personnes en situation de handicap, soit des personnes qui ont rencontré des problématiques chroniques de santé. Nous prenons en charge également des personnes qui sont placées sous main de justice avec l'objectif de lutter et d'éviter la récidive. Un panel de personnes très différentes, mais qui sont toutes confrontées à des problématiques de vulnérabilité et des problèmes de grande précarité.
Vous avez dit qu'il y avait à peu près un quart des publics qui sont des mineurs. Donc, c'est un public qui est quand même difficile à gérer. Et là, quelles sont les structures ? C'est des familles d'accueil ou vous les regroupez dans des centres ?
Oui, alors pour ce qui nous concerne en tout cas, nous accueillons des mineurs dans des établissements dédiés à ces publics qui sont gérés par l'UCRM, donc et pris en charge par des professionnels du domaine du secteur enfance. Et donc l'ensemble de ces publics reçoivent une protection particulière compte tenu de leur âge. Nous accueillons également des mineurs dans le cadre de l'accueil dédié à des femmes, puisque nous déployons aussi un certain nombre de centres d'hébergement qui sont voués à l'accompagnement social de femmes avec des enfants vivant à la rue, voire même des femmes qui sont en phase de pré-accompagnement à l'accouchement ou qui vont accoucher dans le cadre de nos établissements de manière à recevoir l'accompagnement nécessaire du point de vue de la santé et organiser aussi la prise en charge des enfants dès leur naissance.
Donc si je comprends bien aussi, vous êtes en étroite relation avec les hôpitaux, j'imagine ?
Oui, effectivement, nous avons souscrit des conventions et des partenariats très forts, notamment avec le centre hospitalier Joseph Ducoin, avec la plateforme Santé Précarité de ce centre hospitalier. Et nous entretenons des relations aussi étroites avec les centres hospitaliers toulousains, ainsi que l'ensemble des professionnels de santé qui viennent en appui de nos diverses démarches.
Et quelles sont les autres associations avec lesquelles vous avez des relations étroites ? Je pense par exemple à travers ce que vous avez dit pour les femmes, SOS enfants battus, SOS femmes battues, etc. Est-ce que vous avez des relations privilégiées avec toutes ces autres associations ?
Oui, effectivement, le souhait de notre association depuis son origine est de regrouper et de coordonner l'action des acteurs territoriaux pour apporter une réponse collective et experte à des enjeux sociétaux. Et donc, en fonction des divers sujets, des diverses approches autour des publics, nous allons mobiliser autour de nous des acteurs qui ont des savoir-faire et des compétences dans divers domaines, y compris effectivement les domaines en lien avec l'accompagnement des enfants, les sujets propres à la lutte contre les diverses formes d'addiction que peuvent connaître certaines personnes. Voilà, on sait animer ce réseau territorial. On s'appuie également sur un certain nombre de partenaires, évidemment, qui sont déjà installés dans le droit commun, comme les missions locales, Pôle emploi, et tout le tissu économique déployé sur le territoire.
Vous êtes au cœur d'un réseau, finalement. Hein, vous gérez un réseau, d'une certaine façon. Mais comment expliquez-vous la croissance extrêmement forte de votre association? Est-ce que vraiment la mission de service public que vous avez, ça veut dire que l'État, vous et les collectivités territoriales, bien sûr, vous font confiance pour gérer, au fond, une mission qui est une mission de service public, c'est bien ça, mais cette croissance veut dire qu'il y avait un besoin considérable.
Oui, effectivement, il y a d'une part un besoin extrêmement important et on concourt avec les services publics à un diagnostic des divers territoires pour pouvoir proposer une offre de services adaptée finement aux besoins de chaque public. Je crois par ailleurs que notre mobilisation, notre savoir-faire qui s'appuie sur des professionnels experts, répond à des engagements d'éthique professionnelle et de qualité de service qui ont été à la fois reconnus par les personnes accompagnées, mais également par nos partenaires financeurs qui nous font confiance. Et ça nous a permis, en effet, d'imaginer ensemble, au plus près des besoins, les solutions les mieux adaptées aux personnes accueillies.
Alors justement, revenons sur cette question des financeurs. Qui finance principalement votre association? D'où viennent les fonds?
Alors, les fonds sont alloués par les services de l'État, de la région, du conseil départemental.
Dans quelle proportion l'État, à peu près?
L'essentiel des ressources vient, en effet, de l'État, donc qui va contribuer à hauteur de 60% de nos activités. Nous avons également des collaborations avec l'Agence régionale de santé qui finance un certain nombre d'établissements médico-sociaux que nous
L'ARS, gérons. Oui.
Exactement, oui. Oui.
Quelle est la proportion de publics qui viennent des établissements de santé, à peu près?
C'est difficile à évaluer à l'instant parce que les situations évoluent au cas par cas, mais je dirais que ça peut se chiffrer en plusieurs centaines en fait de personnes orientées par les établissements de cette nature. Oui.
Pour lesquels donc vous rendez service de leur permettre de se réinsérer après avoir eu des chocs psychologiques ou physiques qui les éloignent.
Exactement. La particularité aussi de notre association, en accord avec l'Agence régionale de santé, est d'avoir constitué un programme de convergence médico-sociale qui vise à constituer un guichet unique en fait qui permet aux personnes d'éviter de rédiger et de déposer un dossier auprès d'autant d'établissements présents sur la région. Et donc on se réunit avec l'ensemble des responsables d'établissements, les orienteurs que peuvent être par exemple les centres hospitaliers et les divers représentants d'institutions habilitées pour examiner les dossiers et permettre une orientation rapide vers l'établissement le mieux adapté. Ce programme permet également de pouvoir développer des compétences très pointues, je pense notamment à des appuis en termes d'expertise psychiatrique qui permettent de venir accompagner les équipes qui en ont besoin à l'UCRM ou ailleurs pour soutenir une dynamique au regard de problématiques particulières rencontrées par les publics. Et on constitue également ensemble un observatoire qui permet d'évaluer au plus près du terrain les besoins des personnes et apporter une offre de services adaptée.
Bien, et par rapport à l'évolution de vos publics, est-ce qu'il y a, c'est toujours... Il y a maintenant 60 ans quasiment qu'a été créée l'association, elle a beaucoup changé, mais est-ce que vous avez toujours à peu près les mêmes publics ou est-ce que vous avez senti ces dernières années une évolution dans les publics que vous accueillez, que vous traitez?
Ce qu'on observe avec le temps, c'est une augmentation très certainement marquée de l'orientation de publics très jeunes. On se rend compte également que de plus en plus de femmes aussi sont placées dans des situations de vulnérabilité importantes qui nous amènent à les accompagner. Et par ailleurs, ce qui est assez prégnant aujourd'hui, c'est que les personnes rencontrent des caractéristiques individuelles avec des parcours qui révèlent généralement plusieurs problématiques sociales intriquées. On va rencontrer des problématiques de santé dégradées, des problèmes de logement, de garde d'enfants, d'éloignement du marché du travail. Et donc, il va falloir aborder l'ensemble de ces problématiques dans notre action. Et ça, ça se révèle particulièrement marqué aujourd'hui et de plus en plus.
Bien, je crois que vous avez aussi dans vos publics accueilli évidemment des Ukrainiens ou des Ukrainiennes, surtout des Ukrainiennes d'ailleurs. Quelle expérience, quel retour d'expérience est-ce que ces publics posent des difficultés particulières par rapport aux autres populations d'immigrés? Parce que je crois savoir que ce n'est pas les premières populations d'immigrés que vous accueillez. Évidemment, vous avez déjà eu cette expérience, mais est-ce que c'est différent dans le cas des Ukrainiens ou pas? Quelle est votre expérience là-dessus?
Alors, nous avons accueilli effectivement des personnes déplacées d'Ukraine depuis le mois de mars 2022, dans le cadre de conventions qui ont été souscrites avec les services de l'État et Toulouse Métropole. Nous avons accueilli un total de 131 personnes qui correspondent à 52 ménages, donc soit des personnes isolées, soit des couples avec des enfants, soit des familles intergénérationnelles. Notre mission, en fait, est pluridisciplinaire et consiste à la fois en l'accueil, l'évaluation des situations et l'orientation vers le droit commun afin de favoriser l'autonomie des ménages accueillis et l'accès à des solutions de logement adaptées et d'insertion professionnelle. On a ainsi une approche très globale qui va à la fois concerner les aspects administratifs, de santé et d'insertion sociale et professionnelle.
Et ces publics posent une difficulté particulière parce qu'on a beaucoup dit qu'il s'agissait surtout de femmes ou de personnes âgées, avec des enfants évidemment en bas âge, qu'il faut scolariser. Est-ce que vous avez vu une différence, des défis nouveaux?
Alors de ma place, je suis tentée quand même de souligner que l'organisation qui a été mise en place par les services de l'État, de la région, du conseil départemental et des diverses collectivités territoriales aura permis rapidement de mobiliser les associations en possession d'un savoir-faire pour prendre en charge ces personnes déplacées et les orienter opportunément vers les lieux d'accueil et d'hébergement et d'insertion professionnelle les mieux adaptés. Dans ce cadre, donc, l'ensemble des aspects d'insertion sociale et professionnelle ont pu être considérés dans ce parcours d'accompagnement. Parallèlement, on sait que des citoyens ont accueilli de leur propre initiative et dans un élan de grande générosité qu'il convient de souligner, des personnes ces particuliers ont pu légitimement, à un moment donné, être débordés par l'ampleur de la responsabilité. Parce que vouloir aider est un noble sentiment, bien évidemment, mais il faut avoir les moyens. Et chacun ne dispose pas nécessairement des connaissances et des relais, des ressources, des relations pour organiser le parcours adapté d'une personne. Donc les associations ont pu venir en relais dans le cadre de l'accompagnement. Les problématiques qui ont pu être identifiées ne se confrontent à rien qui ne saurait être résolu. On note par exemple que les personnes sont dans l'ensemble très désireuses de stabiliser très rapidement leur situation et de retrouver une vie normale en étant autonomes, ce qui nécessite une très grande réactivité d'accompagnement qui parfois est difficile à concilier avec les contraintes administratives qu'on peut rencontrer et les capacités à accueillir, notamment en termes d'hébergement et de logement. L'accès au réseau professionnel est complexe, malgré les mesures qui ont été mises en place. Et l'État a déployé des ressources très importantes avec Pôle emploi en termes d'insertion professionnelle, en termes d'aide aussi.
Pour ces publics, spécifiquement.
Voilà, d'aide à l'acquisition de la langue française.
Qui sont souvent des femmes, j'ai l'impression, c'est principalement des femmes, oui. Avec des enfants, donc c'est pas évident de s'insérer professionnellement.
Et effectivement, beaucoup de femmes avec des enfants ont été déplacées d'Ukraine. Et la problématique à laquelle elles ont pu être confrontées, c'est celle de nos pratiques habituelles en termes d'insertion professionnelle, à savoir la nécessité de produire un curriculum vitae, parfois de suivre un parcours de formation. Et on constate en fait que ces pratiques sont un peu différentes sur le territoire de l'Ukraine. L'accès à l'emploi en est peut-être facilité. Et donc, il a été nécessaire pour nous de leur permettre d'assimiler ces démarches qui créent un écart avec leur projection initiale et avec leur envie d'accéder très rapidement à l'emploi.
Et la langue, la maîtrise de la langue
Alors, la maîtrise de la langue a été accompagnée à la fois par les services publics qui ont été mis en place pour permettre cette sensibilisation. Et nous avons aussi, au niveau de l'association, mis en œuvre des moyens spécifiques autour de l'appropriation linguistique et autour du parcours d'insertion professionnelle avec une conseillère en insertion professionnelle dédiée à ces publics.
Et aujourd'hui, bon, l'enthousiasme des premières années, enfin des premiers mois plutôt, auprès d'un certain nombre de gens qui ont dit « mais nous, on est prêts à accueillir, etc. » Bon, comme vous l'avez dit, tout ça c'est bien joli, mais il y a un moment où il faut que des professionnels interviennent parce que l'insertion c'est pas quelque chose qui s'improvise, hein, et il n'y a pas que l'accueil physique des gens, il y a aussi tous les parcours, toutes les démarches à faire, etc. Donc aujourd'hui c'est principalement vous qui agissez. Est-ce que vous avez récupéré un certain nombre de familles qui avaient été accueillies à droite à gauche et que vous récupérez dans vos structures, c'est ça?
Oui, tout à fait, effectivement nous avons à l'issue d'un parcours chez les particuliers vu arriver un certain nombre de personnes que nous avons accompagnées dans des centres d'hébergement et maintenant vers l'hébergement. On peut se satisfaire du bilan parce que l'ensemble des personnes, en particulier les premières personnes accueillies, ont toutes trouvé désormais un hébergement, un logement qu'elles financent elles-mêmes. Elles ont accédé à l'emploi.
La scolarisation.
Oui, la scolarisation des enfants a pu être mise en œuvre grâce aux collaborations instaurées avec les directeurs des écoles élémentaires, des collèges, de notre environnement. Nous nous sommes rapprochés aussi des organismes dédiés au conseil départemental pour assurer le transport des familles. Bref, l'ensemble du dispositif est pleinement opérationnel et les familles sont reconnaissantes de l'action qui a été menée et l'expriment avec beaucoup d'énergie et suscitent beaucoup d'émotion pour les professionnels investis dans cette dynamique.
Bien, Madame Caro, j'aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps passe vite, trop vite. Une dernière question. Vous qui avez eu l'expérience de gérer en tant que DRH des entreprises de droit privé à but lucratif, quelle est la différence quand on gère une ONG qui est orientée vers l'aide, l'insertion comme la vôtre?
Je dirais que la différence tient essentiellement au fait que notre gouvernance est bénévole, n'est pas rémunérée pour son action. En revanche, les associations aujourd'hui sont des structures professionnalisées. Nous recrutons des experts dans nos divers domaines. Nous sommes très attentifs à la formation de nos professionnels et nous déployons aussi des mesures pour pouvoir évaluer la plus-value apportée par notre organisation, poser des indicateurs fiables qui permettent de le mesurer et de rendre compte de notre action auprès des financeurs et aussi des personnes accompagnées pour pouvoir être certain que l'argent public est utilisé à bon escient.
Madame Mangaro, merci beaucoup pour cet éclairage et bonne continuation dans toutes vos missions.
Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Au revoir.